Pratiquement, c'est le dernier cours sur la personne. Il y aura la session après, mais ce sera un petit peu différent. La dernière fois, j'ai essayé de vous montrer comment le premier moment où la personne humaine se noue. Je crois que nous devons dire cela. C'est dans l'expérience de l'amour d'amitié, puisque c'est le premier moment de la découverte de la finalité. C'est le premier moment où nous découvrons l'esprit dans ce qu'il a d'absolu. L'esprit ne se découvre pas dans ce qu'il a d'absolu, dans l'activité poétique, dans l'activité artisanale, dans l'activité du travail. Parce que l'œuvre n'est qu'une fin effet, résultat. Il y a bien dans l'œuvre artistique quelque chose qui dépasse le point de vue du conditionnement humain, le point de vue de la matière. L'œuvre est antidestin, donc l'œuvre est au-delà de la causalité matérielle. Elle glorifie l'artiste, mais elle ne fait que le glorifier. Elle ne donne pas à l'artiste le point de vue d'un absolu par où l'homme peut découvrir son esprit, c'est-à-dire découvrir sa personne en tant qu'elle dépasse le point de vue de la matière. Seul l'amour d'amitié donne l'expérience d'un bien spirituel par où l'homme découvre qu'il est capable de se dépasser. L'ami révèle à son ami qu'il y a en lui quelque chose par où il est le bien de son ami, et donc par où il y a en lui une autonomie dans l'ordre de l'être. Et c'est par le biais du bien que l'ami révèle à son ami son autonomie. Évidemment, ceci présuppose, au point de vue philosophique, de comprendre comment le bien personnel, est substantiel. C'est donc bien par la substance, mais découverte par le point de vue du bien, que l'ami se découvre comme le bien de son ami. Il le découvre dans la mesure même où il a découvert dans l'ami son bien. Donc c'est la découverte de l'autonomie et du dépassement qui se fait simultanément. La découverte de l'autonomie et de ce dépassement à l'égard d'un bien personnel qui sont corrélatifs l'un à l'autre. Ces deux dimensions, si vous voulez, se découvrent en même temps. Troisième dimension, c'est la dimension de la vérité. C'est, si vous voulez, l'autre aspect qui va du reste être très important, puisque c'est par le point de vue de cette recherche de la vérité que l'homme ne peut pas s'arrêter à l'amitié et va découvrir progressivement qu'il y a quelque chose d'autre qu'il doit découvrir. C'est la recherche de la vérité qui va permettre non pas de relativiser l'amour d'amitié, mais de dépasser l'amour d'amitié. Je crois que c'est les deux points de vue que nous devons saisir, vous voyez. Le bien, personnel, c'est-à-dire l'ami. L'ami découvre son autonomie substantielle. Il est le bien de l'autre. Il découvre en même temps par l'ami, comme bien substantiel, le dépassant. Son autonomie substantielle et la capacité de se dépasser par l'autre. Ceci, c'est simultané. Troisième dimension, première dimension, deuxième dimension, si vous voulez, c'est par la capacité de ce dépassement qu'il découvre son substance. On pourrait mettre un et deux, peu importe. C'est un ordre génétique. Mais ce qui est important, c'est que c'est réciproque. C'est simultané. On ne découvre son autonomie vitale que par le dépassement. Et alors, c'est là où la réflexion philosophique permet de comprendre que, de fait, c'est vrai, cette autonomie est première parce que c'est la découverte de la substance. Peut-être le bien de l'autre et un bien absolu de l'autre, parce que de fait, dans l'ordre de l'être, on a une indépendance qu'on a découvert précédemment au point de vue métaphysique. On a découvert notre autonomie métaphysique lorsqu'on a découvert notre substance, lorsqu'on a découvert qu'il y a en nous une âme spirituelle. L'âme spirituelle permet de découvrir et de fonder cette indépendance radicale dans l'ordre de l'être. On la découvre d'une façon vitale par le point de vue de l'amour d'amitié et par le dépassement. Ça, je mets quand même l'autonomie en premier lieu et la capacité de dépassement, la capacité d'aimer, par le point de vue de découvrir que l'ami est mon bien personnel. Et la troisième dimension, c'est l'autre dimension de l'esprit dans sa recherche de la vérité. Ça, c'est plus délicat et c'est très important parce que ça va permettre de rechercher au-delà de l'ami s'il existe un autre qui, de fait, va faire l'unité profonde entre cette tension qui existe entre l'autonomie et les capacités de dépassement. Essayer de comprendre cela, parce que je crois que c'est par le point de vue de la recherche de la vérité. La vérité implique l'unité, recherche d'unité, la vérité. Il y a une tension en moi entre mon autonomie et ma capacité de dépassement. Je suis l'ami d'un autre, et l'autre est mon ami. Il y a toujours une certaine tension qui peut aller, qu'on peut traduire par un drame, si vous voulez. En réalité, c'est pas un drame. Je comprends très bien comment ça peut se traduire psychologiquement par le point de vue du drame. C'est toujours dramatique l'amour. Hein. Sauf, l'amour est dramatique au point de vue psychologique. Vous ferez comprendre Nietzsche, n'est-ce pas, la position de Nietzsche. Parce que la position de Nietzsche est quand même très importante pour nous. Elle est intéressante parce qu'elle nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de dramatique dans la découverte de la personne humaine. Lorsque je découvre au niveau de l'amour, c'est pas dramatique, puisque c'est dans l'amour. Mais, et ceci va peut-être donner la clé, que c'est par la vérité que je vais dépasser ce point de vue dramatique. Cette lucidité profonde. Et que c'est ce que Nietzsche n'a pas saisi, avec suffisamment d'acuité. Il est resté dans le drame. Et rester dans le drame, c'est encore rester trop dans le condit. conditionnement humain de l'amour. Le conditionnement humain de l'amour mène au drame. L'amour dépasse le drame. Vous voyez les deux aspects qui me semblent importants à saisir et qui ne peuvent être dépassés que lorsque je découvre cette troisième dimension. C'est vraiment la troisième dimension de la personne, la recherche de la vérité. Alors essayons de saisir ça. À l'intérieur de l'expérience que je fais de l'amour d'amitié, je découvre que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. La connaissance est donc présente à tout amour d'amitié. Mais cette connaissance demande d'être au service de l'ami, puisque j'aime l'ami pour lui-même, et l'aimant pour lui-même, la connaissance est dépassée dans l'amour d'amitié. Ce n'est pas la connaissance que j'ai de l'ami qui mesure mon amour, mais c'est l'ami saisi comme bien qui mesure mon amour. Et je sais très bien que le jour où la connaissance que j'ai de l'ami mesure mon amour va disparaître. Je crois que c'est ce qui fait comprendre comment, à l'intérieur de l'amour d'amitié, tant d'amour d'amitié sombre. C'est un fait. Expliquer les divorces. Expliquer les ruptures et les divisions. Le philosophe doit regarder cela. Deux êtres qui s'aiment, mais comment se fait-il qu'au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, il y ait une rupture? Et la rupture est le signe que l'un et l'autre, les deux amis, n'ont pas découvert pleinement leur autonomie et leur capacité de dépassement. Je crois que c'est le signe d'une limite à l'intérieur même de la personne. C'est une faillite, si vous voulez. Une faillite dans l'ordre de l'amour. Donc, un manque de fidélité. Comment expliquer ça, au point de vue philosophique, hein ? Je dois essayer de le comprendre. Le climat d'aujourd'hui favorise ça. C'est un fait. Il y a beaucoup plus de divorces qu'avant. Alors on peut expliquer ça religieusement, c'est parce qu'on est beaucoup moins chrétien qu'avant, et que par le fait même avant, il y avait le point de vue de la grâce du sacrement qui permettait le point de vue du don qu'on se faisait mutuellement, les époux, et qu'ils comprenaient que le mariage les unissait au Christ, que l'union du Christ et de l'Église est une union indéfectible. On peut expliquer ça surnaturellement, c'est sûr. Mais ce n'est pas suffisant pour le philosophe. Le philosophe ne peut jamais s'arrêter à une explication uniquement de la foi. La foi suffit pour le chrétien, mais ne suffit pas pour le philosophe. Ça ne veut pas dire que la connaissance est supérieure à la foi, hein, comprenez bien. Mais ça veut dire que le philosophe doit pousser son analyse plus loin que le chrétien. Et le philosophe qui pousse son analyse plus loin que le chrétien, c'est le théologien, qui veut essayer de comprendre. Trop facile d'expliquer par là. Il doit y avoir, à l'intérieur même de l'amour d'amitié des deux, le ver rongeur qui fait que, de fait, cet amour ne peut pas s'épanouir pleinement et donc qu'il y a quelque chose, une condition sine qua non pour l'épanouissement de l'amour qui ne se réalise pas. Il doit y avoir une fragilité qui vient du dedans empêcher les amis, les deux personnes humaines qui s'aiment, d'aller jusqu'au bout de l'épanouissement de la personnalité. Donc, il doit y avoir une faille du côté de la personne. D'où ça vient ? Je pose la question, oui. Comment expliquer philosophiquement cette brisure qui se fait, que je constate ? Explication religieuse au point de vue de la foi, très bien. Je peux peut-être aller plus loin, essayer d'expliquer qu'au plan purement philosophique, et je dis bien au plan philosophique, pas au plan psychologique, parce qu'au plan psychologique ne peut pas atteindre cela. On constate les dégâts et on essaie de replâtrer. Ça, c'est le propre de la psychologie. On essaie de replâtrer. Le philosophe doit aller plus loin, il doit essayer de comprendre comment la condition sine qua non de l'amour peut très bien faire cette brisure. La condition sine qua non de tout amour d'amitié, c'est la connaissance. L'esprit qui s'épanouit du côté de la connaissance et qui est au service de l'amour. Je ne peux pas vraiment progresser dans l'amour d'amitié s'il n'y a pas une connaissance, une lucidité toujours plus grande dans l'ordre de l'amitié, qui me fait comprendre que l'ami est aimé pour lui-même et qu'il est mon bien, et donc qu'il dépasse la connaissance que j'ai de lui. Le jour où la connaissance l'emporte sur l'amour, à ce moment-là, fatalement, il y a quelque chose qui va devenir le rival de l'amour et qui va briser cette union profonde de deux êtres qui s'aiment. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, je mets un point d'interrogation, faudrait-je voir, est-ce qu'on pourrait dire que l'union affective ne peut exister que grâce à l'unité de la connaissance. Et toute union implique comme cause une unité, puisque l'union est un effet. Et l'union maintient la dualité et vaut l'unité. L'unité se prend du côté de la connaissance et pas du côté de l'amour. L'amour ne fait qu'une union. Il faut dans l'amour toujours qu'une union. Mais il y a une cause à cette union, qui est évidemment une cause propre dans l'ordre affectif, mais une condition sine qua non dans l'ordre de la connaissance. Il faut que la connaissance porte l'union, autrement dit, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une connaissance qui porte l'union. Il faut qu'il y ait une connaissance profonde à l'égard des personnes pour qu'il puisse y avoir une union affective. C'est un des arguments que prend saint Thomas. C'est à propos de l'union au point de vue de l'amour. Il prend toujours que c'est la connaissance implique une unité. Donc, condition sine qua non à tout amour, une unité dans l'ordre de la connaissance, mais une unité au service de l'amour. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. C'est que cette union affective a besoin de la connaissance qui fait une unité, mais cette unité ne doit pas être rivale de l'union. Il ne faut pas que la connaissance devienne rivale de l'union affective. Et la connaissance peut devenir rivale de l'union affective. Le jour où vous aimez l'autre dans la mesure où vous le connaissez, la connaissance devient rivale de l'amour. Et c'est cette connaissance qui alors vient briser. Alors, vous avez cette chose curieuse, que cette troisième dimension, c'est que je découvre en moi la capacité de connaître. Cette connaissance devient spéculative, je peux le dire, puisque c'est pratique, affective. connaissance pratique affective est au service de l'amour, la connaissance spéculative, elle s'ingère pour elle-même. C'est un problème de la connaissance spéculative. La connaissance spéculative, c'est de rechercher la connaissance pour elle-même. Je recherche la vérité pour elle-même. Je crois, on essaie de comprendre, je crois que à l'intérieur de l'amour s'éveille cette capacité que j'ai de connaître. C'est sûr. Dès qu'on aime quelqu'un, on veut le connaître. Possible autrement. Et donc s'éveille à l'intérieur de cet amour cette capacité de connaissance. Cette capacité de connaissance doit être au service de l'amour. C'est propre de la connaissance affective. La connaissance affective est toujours au service de l'amour. Elle provient de l'amour et est au service de l'amour. À ce moment-là, la connaissance me donne une certaine sécurité dans l'ordre de l'amour. Je connais celui que j'aime. Mais je le connais pour l'aimer. Et donc j'accepte que cette sécurité est une sécurité dans l'ordre de l'amour. En connaissant. Il peut se faire que cette connaissance affective donne naissance à une connaissance spéculative. Puisque la connaissance spéculative, je sais très bien ce qu'elle est au point de vue métaphysique, je sais très bien ce qu'elle est au point de vue philosophique, c'est une connaissance de la recherche de la vérité pour elle-même. Et je peux alors, à ce moment-là, comprendre que cette connaissance de l'ami, c'est merveilleux, elle éveille en moi un dépassement qui doit aller plus loin. Et cette connaissance spéculative qui naît à partir de l'amour, qui distingue de l'amour, et qui naît à partir de l'amour, va m'ouvrir un champ d'investigation plus grand, c'est-à-dire au niveau de la vie première, qui fait que je ne m'arrête pas à l'ami. Ceci est positif. C'est bien évident que l'expérience que j'ai de l'ami éveille en moi un désir d'aller plus loin dans la connaissance. Et je dirais que c'est l'éthique au service de la philosophie première. Et c'est la découverte de la personne par l'ami qui va me permettre de me poser la question, est-ce que la personne ne doit pas aller plus loin dans l'ordre de sa finalité. Et donc, la personne, à ce moment-là, donne naissance à quelque chose de très grand, une recherche de l'autre, c'est-à-dire la recherche de l'être premier. Et je redécouvre par là une possibilité d'une découverte de la personne à un autre niveau que nous allons voir. Je ne peux pas m'arrêter à ce premier bonheur que représente l'amour d'amitié. Je dois aller plus loin. Et vous comprenez aller plus loin, ce n'est pas l'amour d'amitié qui réclame d'aller plus loin, parce que l'amour d'amitié est un absolu. Il faut donc que ce soit la connaissance qui s'éveille dans l'amour d'amitié qui exige d'aller plus loin. Et c'est vraiment la connaissance. C'est pour ça. C'est la philosophie première, éveillée, réveillée par l'amour d'amitié, qui va exiger d'aller plus loin. Je crois que ça, nous pouvons le comprendre, et ça fait partie, si vous voulez, de ce développement que nous allons voir, comment ce premier moment de la personne humaine exige un autre moment de la personne humaine. Ici, c'est vraiment l'exigence même de la connaissance. Mais il peut y avoir, c'est là où il faut bien voir, il peut y avoir dans cette recherche de la vérité spéculative un danger pour la connaissance affective. Autrement dit, la connaissance spéculative peut devenir rivale de la connaissance affective. C'est possible. La connaissance spéculative en elle-même est bonne, puisque c'est la recherche de la vérité. Il ne faut pas que l'amour de l'ami arrête la connaissance spéculative. Ça peut se faire. Mais c'est des exemples très très simples qu'on rencontre dans la vie, ça. Qu'on rencontre dans la vie, je vous affirme que je pourrais vous en citer pas mal. D'ordre pratique, on voit très très bien ça, comment de fait la recherche de la connaissance spéculative peut apparaître au niveau d'une certaine connaissance affective comme rivale, alors que ça ne doit pas l'être. Parce que la personne humaine est nouée avec l'ami, mais si j'aime l'autre pour lui-même, je ne demande qu'une seule chose, c'est que sa personne humaine se développe le plus qu'elle peut. C'est ça, il est vraiment l'autre. Et alors j'aurais peur à ce moment-là qu'il m'échappe. S'il va plus loin, s'il découvre la connaissance spéculative, hein, il va m'échapper. Parce que la connaissance spéculative, comme connaissance spéculative, dépasse la connaissance affective. Il est autre chose que la connaissance spéculative. Autre chose que la connaissance affective. Et donc à ce moment-là, l'ami peut très bien avoir très peur que son ami, découvrant l'existence de Dieu, l'échappe. Vous voyez la parole d'Aristote ? Est-il souhaitable, mon ami, de devenir un Dieu ? Aristote répond : je le perdrai. Il ne sera plus mon ami. Il traite ça à titre comme ça, on voit très très bien, à titre éthique, mais il souligne la tentation. Il souligne que de fait, il y a un danger. Dieu devient rival à ce moment-là. On considère que Dieu est un rival dans l'ordre chrétien, on voit constamment ça. Non, l'époux qui a peur que son épouse devienne contemplative, si elle devient contemplative, elle n'agirait plus. Elle sera l'amie de Dieu avant d'être mon amie. Et alors à ce moment-là, ça devient très grave. Et le prêtre qui la dirige devient lui rival. C'est parce qu'il la pousse vers la contemplation, c'est effrayant. Alors c'est des oppositions qui se concrétisent très fort. Et je crois que c'est tout simplement ici, c'est ça que je souligne, parce que je crois que ça c'est très important. Je souligne qu'à l'intérieur de l'amour d'amitié, le dépassement ne se fait pas par le point de vue de l'amour, pas l'amour de l'ami, mais c'est la connaissance de la recherche de la vérité qui, à l'intérieur même de cette connaissance affective, va s'éveiller pour rechercher un autre absolu. Cet autre absolu ne peut pas être rival. Mais psychologiquement, on peut très bien le considérer comme rival. Si donc j'aime l'ami d'une manière trop psychologique et donc je l'accapare, je ne l'aime plus assez pour lui-même, et je l'aime trop pour moi-même, à ce moment-là, la connaissance spéculative qui va naître, j'ai dit connaissance spéculative, j'ai dit connaissance contemplative, hein, la connaissance contemplative qui va naître, on la va la considérer comme rival de l'amour, de la connaissance affective. Donc, il y a un problème, hein, qui est très important à souligner, et qui est ce passage de la connaissance affective à la connaissance spéculative. Pourquoi la connaissance spéculative est-elle si facilement traitée en, d'une façon comme l'ennemi, rival, et donc on devient avare de haine ? Vous vous souvenez, ce testament que mon père Ramirez, puisque maintenant il est dans le ciel, je peux le dire, mon père Ramirez qui était à Fribourg, qui était un genre Bagnès, hein, quand on a rencontré ça dans sa vie, c'est beau, hein, Bagnès qui revient sur la terre. Grand, vraiment un des grands dans le sens du thomisme et de la scolastique. Très très grand et reconnaissant lui-même, hein, que la scolastique est déterminé et qu'il faut autre chose, quand même très grand. Je vais rencontrer ça, j'ai une arrivée, et je rencontrais chez Ramirez. Et c'était très très fort. Et quand Ramirez a quitté Fribourg, il m'a dit, c'était le testament fraternel d'un frère aîné à l'égard d'un jeune, en disant, je vous demande de jamais diminuer la force de vos cours. Premièrement, vous aurez la tentation. Deuxièmement, vous serez haï. Pas drôle. Parce que vous voudrez maintenir à travers tout la métaphysique. Et quand on veut maintenir à travers tout la métaphysique, on suscite des haines. Vous voyez ? Le dépassement de la connaissance spéculative par rapport à la connaissance pratique. Et la connaissance pratique, elle est double. C'est la connaissance pratique affective et la connaissance pratique politique. Nietzsche a de la haine vis-à-vis de la métaphysique. C'est de la haine. Et alors on sent très bien ça. On sent très bien qu'il peut y avoir cette haine. Et si on veut maintenir la connaissance spéculative, eh bien oui, parce qu'on considère que c'est un rival. Il y en a de la haine pour un rival. On le jalouse d'abord, et quand on voit qu'il vous échappe, alors on a de la haine. Parce que c'est vrai que la connaissance spéculative vous donne une indépendance, une autonomie souveraine. Ça c'est sûr. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si dans la connaissance spéculative, vous pouvez vous orienter vers l'absolu Dieu, et vous échapper à toutes les opinions humaines. Terriblement ennuyeux pour les opinions humaines. N'est-ce pas ? Parce que le suffrage universel ne tient plus. Et ne peut plus tenir à ce moment-là. Vous êtes fixé dans l'au-delà. Spéculativement. Au sens contemplativement. Vous êtes fixé dans l'au-delà. Par l'intelligence. Pas seulement par la foi. Et on en a besoin. Et donc, vous êtes fixé dans un dépassement. On comprend très bien qu'il peut y avoir une haine de la connaissance affective et de la connaissance politique par rapport à cette connaissance spéculative. Ça, je crois qu'on peut très bien le sentir. Je prends deux noms, Nietzsche et Gabriel Marcel. Alors, la haine de Gabriel Marcel était moins puissante. Hein. Mais, et à la fin de sa vie, Gabriel Marcel m'a dit, maintenant je commence à vous comprendre. Et c'est vrai qu'il le faut. Parce qu'il avait une opposition au point de vue de connaissance affective, de sa philosophie tout au niveau de la connaissance affective. Quand on parle de métaphysique, il avait les bras en l'air, vous ne faites plus. Non, il voulait la fidélité affective, c'était ce qu'il y avait de plus grand. Et à la fin de sa vie, il n'a reconnu que le fait. C'est vrai. Il faut aller plus loin. Il faut une connaissance spéculative, une connaissance contemplative, métaphysique. C'est important de comprendre cela. Alors, comprenons. Comment cette connaissance, ce désir de connaissance spéculative, qui désire découvrir l'autre, si cette connaissance spéculative s'arrête, qu'est-ce que ça devient ? Elle devient rivale de la connaissance affective par rapport à l'autre. Alors c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, vous jugez l'ami, non plus à l'intérieur de l'amour que vous avez pour lui, mais vous le jugez dans votre connaissance affective, dans votre connaissance spéculative, vous l'analysez. Et en l'analysant, vous mesurez votre amour par rapport à cette connaissance. Et alors cette connaissance spéculative devient rivale de l'amour de Dieu. Ça, c'est très important à saisir, parce que ça fait comprendre comment le développement de la connaissance spéculative, qui est absolument nécessaire pour découvrir la sécurité plénière de la personne humaine, cette découverte, si elle ne va pas jusqu'au bout, peut devenir rivale de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est le drame constant qu'on voit aujourd'hui. Parce que la métaphysique n'existant plus, la connaissance spéculative qui existe nécessairement. On a supprimé la possibilité d'une connaissance chez un individu, mais normalement, nous sommes naturellement portés à la connaissance spéculative. Nous sommes naturellement portés à la recherche de la vérité. Alors, si cette connaissance spéculative existe vraiment dans son développement métaphysique, à ce moment-là, elle ne peut pas être rivale. On comprend qu'il y a une connaissance affective, qu'il y a une connaissance poétique. On l'accepte. C'est tout à fait normal. Mais si il n'y a plus de métaphysique, la connaissance spéculative connaît un refoulement. C'est peut-être le plus terrible des refoulements. Et le refoulement de la connaissance métaphysique, aujourd'hui, existe constamment. Ce refoulement de la connaissance spéculative fait que la connaissance spéculative, à la place de regarder Dieu, parce que la connaissance spéculative n'a pas d'autre sens que de connaître Dieu. Fameuse parole d'Aristote, on fait de la métaphysique pour connaître le nous et Dieu. Il ne dit pas du tout on fait de la métaphysique pour connaître la nous. Mais s'il n'y a plus cette orientation spéculative vers Dieu, il y a un repliement sur le nous. Et le repliement sur le nous peut faire qu'il y a un repliement sur la vie. Il y a un double repliement. Et à ce moment-là, la connaissance spéculative devient rivale de l'amour. Je crois par la dialectique. Ce sera intéressant à voir. Je reprends parce que ça c'est très important, parce que ça fait comprendre en même temps, vous voyez, la possibilité qu'il y a de ne pas aller jusqu'au bout de cette troisième dimension, qui est la plus terrible. Hein. L'affectivité, la connaissance affective de l'ami, on comprend très bien, mais cette connaissance affective de l'ami implique comme condition sine qua non la connaissance affective, absolument. Donne une certaine sécurité. La connaissance sécurise. C'est bien évident. Et quand on supprime la connaissance dans l'amour d'amitié, c'est l'angoisse. Il faut lutter contre l'angoisse par la connaissance spéculative. C'est pas commode quand on est angoissé, mais il faut le faire avant, autant qu'on peut. N'est-ce pas ? Et que la mort de la connaissance spéculative engendre l'angoisse. C'est sûr. Alors, vous voyez, c'est ça que je veux et que vous compreniez. Hein. Je reprends d'une autre manière pour que vous saisissiez bien. Vous saisissiez bien comment il y a ce premier moment, on va le mettre de cette manière-là, ce premier moment de la découverte de la personne humaine, selon trois dimensions, donc l'autonomie substantielle, l'autonomie se fonde sur les substances, ceci se fait par la découverte du bien, c'est assez normal, par la mutualité. Et cette autonomie est parallèle au dépassement. Dépassement à l'égard du bien. Par le bien, je découvre mon autonomie substantielle, et ce bien, je l'ai découvert dans un dépassement. Pour que nous puissions mieux comprendre le lien qui existe entre cette autonomie et ce dépassement, je regarde la condition sine qua non de tout amour d'amitié, qui est le point de vue d'une connaissance pratique, une connaissance affective, qui me sécurise. Donc je retrouve l'autonomie, la valorisation, la sécurité. Retrouver le point de vue psychologique. Je le retrouve là, non plus au niveau du conditionnement, mais je le retrouve au niveau de la finalité. La finalité seule de l'ami, qui est mon bien, me permet de comprendre mon autonomie, ma valorisation et la sécurité. Mais la sécurité est une troisième note uniquement comme une condition sine qua non. Quand on aime quelqu'un, on ne se pose pas la question « est-ce que tu me sécurises ?» Non, pas du tout, je l'aime. Il me sécurise. C'est mon ami qui me sécurise. Et qui me sécurise dans la connaissance que j'ai de lui. et de la connaissance que j'ai de son amour. Je sais qu'il m'aime. C'est très curieux, c'est toujours la suite des angoisses. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire, tu continues de m'aimer? C'est ça qu'on prend, Est-ce qu'on a besoin de cette sécurité? Cette sécurité qui est la connaissance, la conscience que j'ai de l'amour de l'autre. Il faut qu'on ait cette conscience. Cette conscience expérimentée. Tout le temps. Et ça sécurise. Ça donne la paix. Ça, la sécurité, ça donne la paix. J'ai cette paix, je peux me reposer en toi. L'ami se repose en son ami. Il se repose en son amour grâce à la conscience qu'il a de son amour. Alors il se repose. Deuxième, cette personne, ce lien premier de la personne humaine par le point de vue d'amitié, demande un dépassement qui se fait grâce à la connaissance spéculative, à la connaissance contemplative, où je découvre l'autre au sens absolu. L'autre premier, c'est-à-dire le créateur. Ceci se fait dans le fait que je ne peux pas m'arrêter à la personne humaine, je dois dépasser la personne humaine, parce que la personne humaine, au niveau de la connaissance spéculative, n'est pas l'absolu de l'autre. Et comment la connaissance spéculative peut devenir rivale de l'amour d'amitié? Il ne l'est pas, mais il peut le devenir. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ce moment de dépassement, cet autre dépassement, ce dépassement beaucoup plus profond que le premier dépassement par rapport à la personne humaine, c'est que la connaissance spéculative qui existe, hein, puisque cette recherche de la personne présuppose la métaphysique, présuppose donc toute une connaissance spéculative qui existe. Cette connaissance spéculative reprend, à partir de la découverte de la personne humaine, comme une nouvelle vigueur, où je me pose la question, est-ce que la personne humaine est-elle l'absolu dans l'ordre de l'être? La personne humaine est un absolu dans l'ordre du bien, mais est-elle l'absolu dans l'ordre de l'être? La personne humaine que j'aime, mon ami que j'aime, n'est pas l'absolu dans l'ordre de l'être. Donc je le relativise. Alors, relativiser mon ami, est-ce que c'est pas le tuer? Espèce de chose très curieuse, de la rivalité de l'être par rapport au bien. Et c'est bien ça, parce que quand j'aime l'autre, je l'aime comme mon bien, il est mon absolu dans l'ordre de l'amour. C'est évident que l'ami est un absolu dans l'ordre de l'amour. Alors est-ce que la connaissance spéculative qui regarde du point de vue de l'être et qui montre que la personne humaine, mon ami comme personne humaine, n'est pas l'absolu dans l'ordre de l'être. Il y a une autre réalité. Il y a une réalité première que je découvre par ma connaissance spéculative. C'est donc ma connaissance spéculative qui va permettre ce deuxième dépassement. Le premier dépassement, c'est le bien. Le deuxième dépassement, c'est dans l'ordre de l'être. Et il s'opère par la connaissance spéculative. C'est assez curieux, ça. C'est très beau à voir. Parce qu'alors, c'est le bien, vous voyez, c'est l'être qui va, de fait, permettre le dépassement. Alors, on comprend très bien, c'est ça que je veux montrer, on comprend très bien comment il y a une tentation, je dis bien une tentation, de ne pas aller jusqu'au bout de cette connaissance spéculative. Et donc, de relativiser l'ami par la connaissance spéculative que je peux en avoir. Si je relativise mon ami en posant l'absolu véritable qui est Dieu,
relativiser mon avis par Dieu n'est pas dangereux. Mais relativiser mon avis par ma propre connaissance de Dieu, alors c'est ça qui fait la rupture même de mon avis.
Et je vois donc comment cette troisième dimension, qui est très importante, la recherche de la vérité, comment cette troisième dimension peut être quelque chose de magnifique parce qu'elle me permet un nouveau dépassement, et comment cette troisième dimension peut être aussi quelque chose de terrible parce qu'elle peut briser la vérité. Je crois que c'est ça qui fait comprendre la haine qu'on peut avoir sur le livre de la connaissance. La connaissance spéculative peut très bien, à la mesure où elle est, peut très bien devenir rivale de l'amour d'amitié. Vous voyez qu'à partir de là, j'aurai l'autre dimension de la personne humaine en tant que je regarde la personne humaine comme une personne qui est une créature. Alors, c'est la seconde dimension de la personne humaine, en particulier la vie. C'est toujours les deux. Personne humaine se stabilise auprès de l'ami, la personne humaine se stabilise auprès de celui qui est le créateur. Je découvre à ce moment-là la personne humaine en tant qu'elle accepte sa dépendance vis-à-vis de Dieu, et donc la personne humaine religieuse. C'est la seconde dimension. C'est plus l'ami, c'est le créateur qui polarise la personne humaine. Et la personne humaine est polarisée par le Créateur. Je redécouvre alors à l'intérieur même de cette relation profonde de l'homme par rapport au Créateur, je redécouvre l'importance de la contemplation. Alors, vous voyez, ce n'est plus du tout la même définition de la personne. C'est ça qui est très curieux. Parce que c'est la contemplation qui est première. Donc la connaissance spéculative devient première. Dans connaissance spéculative au très grand sens, la recherche de la vérité, qui devient première dans la structure même de la personne religieuse. L'intelligence.